Bien, nous allons poursuivre les matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un camp de migrants monté au pied de la statue de la République à Paris a été violemment démantelé hier soir par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur évoque des images choquantes et demande un rapport. Nous reviendrons en détail sur la soirée dès le début de ce journal.
Et puis nous irons ensuite aux États-Unis où Donald Trump accepte le processus de transition vers une administration Biden.
Des commerces qui rouvrent dès la semaine prochaine, mais des déplacements encore encadrés au moins jusqu'à Noël. Voilà ce que doit détailler ce soir Emmanuel Macron pour alléger le confinement en France. Une parole attendue mais ritualisée et importante, nous dira un politologue dans cette édition.
Et puis, nous nous pencherons sur le Conseil national des solutions, une instance que veulent créer des maires pour surveiller la répartition du milliard d'euros dédié aux quartiers défavorisés. Le gouvernement refuse.
Dans un quart d'heure, le billet politique. Frédéric Seiss revient ce matin sur le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption, procès qui a commencé hier. Il reviendra sur ce qu'il nous dit de l'état de la République. Des personnes exfiltrées de leur tente, Manu Militari, sous un nuage de gaz lacrymogène. La scène se passe à Paris, place de la République, hier soir. Des images choquantes, admet de lui-même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un tweet. Il demande un rapport au préfet de police après cette intervention des forces de l'ordre. Elles ont évacué, en fait, de la place de la République, quelques centaines de migrants. Des exilés qui n'avaient pas été pris en charge en fin de semaine dernière, après le démantèlement de leur camp au nord de la capitale. Mathilde Vinceneux était place de la République hier soir, elle nous raconte.
Les forces de l'ordre encerclent la foule, s'emparent violemment des tentes. Corinne Thor, elle, désespère, elle s'occupe de ces migrants pour Médecins Sans Frontières.
Ces personnes qui sont en errance depuis la semaine dernière, puisque la police les repousse en permanence, c'est un rapport de force, ils n'ont qu'un objectif, c'est reprendre les tentes et de les remettre dehors et de les harceler encore.
Blessé, Reza Jafari, lui, hurle sa colère. Il est président de l'association Enfants d'Afghanistan.
Dès qu'on s'installe quelque part avec les réfugiés, ils nous gazent, ils nous frappent. Ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont donné des coups de bâton, des coups de tout.
Bousculé aussi des avocats, des élus présents dans la foule. Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris.
Mais la décision ne vient pas du policier qui est sur le terrain. La décision vient de plus haut. L'État peut prendre ses responsabilités avant. Et c'est ce que lui demande encore aujourd'hui la maire de Paris avec cette demande d'ouverture de deux lieux d'hébergement.
Des ouvertures que la préfecture n'a pas autorisées. Saïd, un Afghan de 25 ans, rêve d'un toit après 5 mois dehors.
Là, j'ai récupéré ça, cette tente et cette couverture parce que là, ça faisait quelques jours que je dormais sans tente ni couverture.
Avec son baluchon, il disparaît dans les rues de Paris alors que le cortège tente de rejoindre l'hôtel de ville entre deux charges policières.
Un reportage de Mathilde Vinceneux, place de la République hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé cette nuit l'ouverture d'une enquête sur la réalité des faits. Il affirme qu'il prendra des décisions dans les heures qui viennent. Alors que la loi, censée protéger les policiers lors de manifestations face aux journalistes, le texte, la proposition de loi dite de sécurité globale, doit être validée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les députés. L'errance des migrants, elle se fait en France, donc à Paris, nous l'avons entendu. Elle se fait aussi plus au sud de l'Europe, sur les îles Canaries, nouvelle porte d'entrée cette année pour les migrants. Depuis janvier, près de 19 000 personnes venues d'Afrique sont arrivées sur les îles Canaries, originaires pour beaucoup du Sénégal ou de la Gambie. Des milliers d'arrivants pour des centaines de morts. Au moins 900 déjà en Méditerranée centrale, voilà ce que dit l'Organisation internationale pour les migrations. Leurs dépouilles restent souvent sur place, comme le constate notre envoyé spécial aux Canaries, Valérie Crova.
Dans le cimetière d'Agouimès, un bouquet de fleurs et un chapelet ont été déposés devant des niches funéraires. C'est ici que reposent 15 migrants, découverts au mois d'août, dérivant en mer sur un bateau. Deux, on ne sait rien, seulement qu'ils sont morts de faim et de soif. Bartholomé, le gardien du cimetière.
Chacun a un numéro. 1, 2, jusqu'à 15. Il n'y a pas de nom, rien. Qu'il s'agisse de migrants ou pas, c'est très triste. Ce sont des gens comme nous qui voulaient une vie meilleure.
La Fédération des associations africaines des Canaries souhaitait que ces migrants soient inhumés dignement. Elle a reçu l'aide de la paroisse, le curé Miguel Lantegua.
15 migrants en même temps, ne pas connaître leur nom, ni leur origine, ni leur âge, ni leur visage. C'était vraiment dur. Vu qu'ils sont au cimetière, dans un endroit bien visible, les gens vont fréquemment les voir, prient pour eux et leur apportent des fleurs.
La mort lente de ces migrants, dont on ne connaît pas la religion, a été un choc pour les habitants d'Agouimès. Ils n'ont pas été incinérés pour permettre un jour peut-être de les identifier.
C'était Valérie Crova, accompagnée de Gilles Gallinaro. Des migrants toujours plus nombreux aux Canaries. C'est aussi le reportage de la rédaction à retrouver ce matin sur franceculture.fr. Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, Donald Trump donne son feu vert à l'administration pour travailler avec les équipes de Joe Biden. C'est une première étape vers une transition du pouvoir aux États-Unis, 3 semaines après l'élection. Le président sortant a écrit hier soir 2 tweets dans lesquels il évoque l'intérêt du pays. Sébastien Paour.
Trump ne reconnaît pas la victoire de Biden dans ses messages. Il dit même croire au succès du juste combat qui se poursuit fortement, écrit en majuscules. Mais il demande à l'administration des services généraux de lancer officiellement la transition. En fait, il tweete quand il sait que la lettre de la responsable de cette agence est envoyée, que le processus est donc lancé. Dans son courrier, la fonctionnaire explique elle longuement qu'elle n'a reçu aucune pression. Elle ne nomme jamais Joe Biden par son titre de président élu. Et elle précise ce qu'implique sa lettre, un premier fonds de transition de plus de 6 millions de dollars débloqués, un accès à des bureaux et surtout aux agences fédérales et aux informations confidentielles. L'équipe Biden salue une étape nécessaire qui permet un transfert du pouvoir pacifique pour commencer à travailler notamment, dit-elle, sur la gestion de la pandémie.
Un premier pas donc pour Joe Biden qui a dévoilé par ailleurs hier les premiers noms de sa future équipe à la Maison Blanche. Il y a quelques anciens collaborateurs de Barack Obama, mais aussi, et c'est assez rare pour être souligné, un hispanique et 2 femmes à des postes clés.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'Italie a dépassé les 50 000 morts liés au Covid-19 hier et devient le 6e pays au monde à passer ce cap.
Ce serait une grave erreur que de baisser la garde, a prévenu hier le ministre de la Santé en Italie. Mais pour épargner un peu l'économie du pays avant les fêtes de fin d'année, le gouvernement a trouvé une solution. Il propose de rembourser une partie des courses de Noël des Italiens, à condition qu'elles soit effectuée en carte bancaire. L'idée est de relancer la consommation et de lutter contre l'évasion fiscale, Bruce de Galzin.
Un achat effectué, 10% remboursé par l'État italien. C'est le principe du bonus de Noël pour le mois de décembre. Mais attention, il faut régler avec sa carte bancaire, pas en liquide donc, et dans les magasins, pas en ligne. Il faut aussi un minimum de transactions, 10, mais pour tout achat, aussi bien un café dans un bar qu'un sac à main haute couture. Il y a bien sûr une limite, 150€ maximum seront remboursés, mais directement sur le compte bancaire. Car pour participer, il faut s'inscrire sur l'application de l'administration publique, être majeur, résident en Italie et insérer son numéro de carte bancaire et son IBAN afin donc d'être remboursé. Le gouvernement cherche ainsi à lutter contre l'évasion fiscale en incitant à payer avec des moyens traçables. Il ne s'arrêtera pas à la seule période de Noël, puisque chaque semestre, jusqu'à 150€ seront remboursés. Et pour inciter encore davantage à jouer le jeu, il y aura aussi le super bonus, 1500€ à gagner tous les 6 mois pour les 100 000 personnes qui totaliseront le plus grand nombre de transactions.
Bruce de Galzin depuis Rome pour France Culture. J'ajoute que la Suède aussi multiplie les mesures pour faire face à cette 2e vague de Covid-19. Mesures sanitaires dans un premier temps, et d'ailleurs c'est une première pour le pays. À partir d'aujourd'hui, tous les événements publics en Suède voient leur jauge passer à 8 personnes seulement. Cette actualité-là pourrait en revanche s'éloigner pour les Britanniques. Le confinement sera levé mardi prochain pour revenir, dit le Premier ministre, à des restrictions plus locales, et ce en fonction de l'évolution de l'épidémie. Même espoir, ou presque, en France, puisqu'un allègement des contraintes est envisagé pour la semaine prochaine au plus tard. Emmanuel Macron doit s'exprimer à ce propos ce soir à 20h. Il donnera un cap, un calendrier sur 1 mois minimum pour éviter l'erreur du déconfinement trop rapide au printemps dernier. Peu de suspense donc, mais une parole attendue tout de même, à en croire Bruno Cotres, il est chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
Dans une situation de crise, d'interrogation par les Français, le sentiment d'être perdu aussi, eh bien, les interventions du chef de l'État sont des points absolument fondamentaux. Il s'agit pour le chef de l'État d'exercer l'une de ses fonctions les plus importantes, et de donner des perspectives au pays, et surtout de rassurer. Et l'opinion aujourd'hui est inquiète. C'est vrai qu'on a eu à la fois un sentiment régulièrement d'improvisation. En tout cas, c'est un sentiment qui était dominant dans l'opinion publique. Donc il y a matière, effectivement, à corriger le tir encore aujourd'hui, et à donner surtout le sentiment aux Français, eh bien, qu'il y a de la vision, qu'il y a de la préparation, qu'il y a une machine de l'État, des collectivités locales qui est en bon ordre de bataille et qu'on est prêt pour éventuellement aussi affronter à la fois une troisième vague épidémique si elle devait avoir lieu ou la campagne de vaccination si effectivement les bonnes nouvelles continuent sur le front de la vaccination pour le début de l'année 2021.
C'était Bruno Cotres interrogé par Rosalie Lafarge. 1 milliard d'euros pour les quartiers défavorisés, cela représente 1% du plan de relance français et ce milliard sera sanctuarisé. Voilà ce qu'a dit hier Matignon. Une dizaine de maires s'inquiètent toutefois de la mise en œuvre et du suivi de ces aides pour les quartiers défavorisés. Ils ont réclamé un conseil national des solutions, mais le gouvernement refuse, Thomas Giraudot.
La ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay, est claire. Pas besoin pour l'instant d'un conseil national des solutions, puisqu'il existe déjà un conseil national des villes, une instance qui rassemble élus locaux, associations, entreprises et habitants des quartiers défavorisés. Hélène Geoffroy, maire PS de Vaux-en-Velin et ex-secrétaire d'État chargée de la politique de la ville.
Il a fait des propositions et dont certaines ont pu être prises par le gouvernement, mais il n'est pas en train de suivre commune par commune les 1% du plan de relance pour savoir si les cités éducatives de chaque commune ont bien été financées, les associations de chaque commune. En tout cas, dans le format tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas le faire.
Le Conseil national des solutions veut être plus concret, plus en phase avec le terrain. Il est pourtant composé du même type d'acteurs que le Conseil national des villes. Alors, quelle différence ? Frédéric Le Turc est le maire centriste d'Arras.
Il y a des projets qui émergent des acteurs locaux qui ne sont pas suffisamment hissés dans un espace de dialogue à partir duquel, en fait, on pourrait puiser de bonnes idées, à partir duquel on pourrait échanger sur en fait les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Et ce débat-là, c'est pas au Conseil national des villes qu'on le trouve.
Créer donc une institution complémentaire, moins techno, pas indispensable aujourd'hui, donc selon le ministère concerné, qui dit impulser une nouvelle dynamique au sein du Conseil national des villes, en associant davantage encore les élus locaux.
Thomas Giraudot à propos de la gestion du plan de relance et de son enveloppe. Voyons maintenant un peu plus loin, dans quelques années. La question du remboursement de la dette va forcément se poser, dette un peu plus creusée par la crise sanitaire et économique. Certains, comme Arnaud Montebourg ce week-end, plaident pour une annulation de la dette liée au Covid-19, de peur de voir l'austérité gagner le pays. C'est aussi la crainte de plusieurs économistes. Ils avaient signé une tribune en ce sens au printemps dernier. Marie Viennot a pu joindre l'un d'eux, Nicolas Dufresne, haut fonctionnaire et directeur de l'Institut Rousseau.
Il faut annuler la partie de la dette publique qui est détenue par la Banque centrale et uniquement par la Banque centrale. Cela représente 2400 milliards d'euros à l'échelle européenne, dont 485 milliards d'euros à ce jour pour la France. Évidemment, il ne s'agit pas d'annuler la dette publique qui est détenue par les compagnies d'assurance, par les banques, par tous les acteurs économiques qui peuvent en posséder, parce que ça pourrait avoir des conséquences en chaîne et ça pourrait conduire à appauvrir des épargnants ou à créer des problèmes de liquidité pour les institutions financières. C'est évidemment pas notre but. Notre but, c'est de proposer l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale en échange d'investissements dans la transition écologique, mais on peut aussi imaginer des investissements sociaux comme pour l'hôpital, ça serait pas de trop pendant la période que l'on vit. Et bien sûr, la Banque centrale est le seul acteur qui peut le faire et qui peut le faire sans aucune difficulté, puisque la Banque centrale crée la monnaie et ne peut donc jamais se retrouver en situation de faillite. C'est d'ailleurs Christine Lagarde elle-même qui l'a dit. Donc il est temps de trouver des solutions innovantes pour ne pas rajouter des politiques d'austérité au nom du remboursement de la dette, ce qui serait totalement contre-productif, comme on l'a vu en Grèce et ailleurs, pour que la monnaie soit remise au service des citoyens et de la société.
Annuler la dette Covid, le gouvernement s'y oppose farouchement et martèle qu'elle sera remboursée. Idem pour le gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Gallo est d'ailleurs l'invité des matins de France Culture. Nous l'accueillerons dans quelques minutes à peine pour évoquer justement cette dette publique. Et cela alors que les conséquences économiques s'alourdissent un peu plus dans le pays avec des annonces, notamment de suppression de postes ces derniers jours. 4 à 500 en France, disait hier Danone. Quand la CGT chez Total craint la suppression d'au moins 700 postes non remplacés. Placé. Nous venons d'apprendre cette demande il y a quelques minutes. La défenseure des droits réclame des poursuites disciplinaires contre des policiers dans l'affaire Théo. Du nom de cet homme de 22 ans, grièvement blessé après avoir reçu un coup de matraque au niveau de l'anus, c'était en 2017 en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois. Claire Hédon, la défenseure des droits, relève des manquements à la déontologie policière de la part de 4 fonctionnaires. Elle demande donc des poursuites disciplinaires. Un temps sec mais nuageux, excepté sur le sud-est de la France, toujours très ensoleillé. Voilà la météo de ce mardi. Ce matin, il fait 3 degrés à Strasbourg, 8 à Paris, 13 degrés à Brest et à Bordeaux, 15 degrés à Nice, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Eh bien, dans quelques instants, effectivement, nous serons en compagnie du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et on évoquera les conséquences économique de la pandémie et puis notamment évidemment cette question de la dette qui a été soulevée dans 30 minutes. Mes camarades Hervé Gardette pour la transition, Géraldine Mosna-Savoie pour la philosophie et Arnaud Laporte qui évoquera à quoi pensent les artistes et puis un billet politique avec vous Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et alors de quoi allez-vous nous parler ?
Un ancien président de la République jugé pour corruption, on va se demander ce que cela dit de l'état de notre République.
Réponse dans quelques instants.